Bienvenue à Beta Finch, votre analyse boursière alimentée par l'IA. Je suis Alex, et nous sommes ici pour décortiquer les résultats les plus récents de United Parcel Service, UPS, pour le premier trimestre 2026. Quel trimestre intéressant celui-ci! Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
Merci pour cette introduction, Alex. Et oui, c'est un trimestre vraiment chargé pour UPS. Ils ont navigué dans un environnement macro difficile avec des conflits au Moyen-Orient, des prix du carburant en hausse, mais ils ont toujours réussi à surperformer leurs attentes internes.
Exactement. Commençons par les chiffres. UPS a rapporté un chiffre d'affaires consolidé de 21,2 milliards de dollars au premier trimestre, avec un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard de dollars. Cela représente une marge d'exploitation de 6,2% et le BPA dilué était de 1,07 dollars. Jordan, qu'en penses-tu de ces chiffres en surface?
Honnêtement, c'est solide. Ils ont surpassé leurs objectifs internes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est comment ils ont maintenu cette performance malgré l'absorption d'environ 350 millions de dollars de coûts de transition au cours du trimestre. Cela inclut les dépenses de tiers pour les avions loués, les coûts de transition pour Ground Saver, et même les coûts de météo et de sinistralité.
C'est un point crucial. Parce que si vous enlevez ces 350 millions de dollars, leur performance ressort encore plus forte. Et maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment avec Amazon, parce que c'est un élément clé de cette histoire.
Oh, absolument. UPS a fait de grands progrès dans sa réduction stratégique du volume Amazon. À la fin du premier trimestre, Amazon ne représentait plus que 8,8% du chiffre d'affaires total, c'est en baisse par rapport à un peu plus de 13% pas très longtemps avant. Ce glissement programmé d'Amazon volume était prévu, et il continue à suivre la trajectoire. Carole Thomé, la PDG, a déclaré qu'ils sont confortablement dans la dernière ligne droite pour réaliser une réduction de 50% du volume Amazon d'ici juin 2026.
Et cela fait partie d'une stratégie plus large, n'est-ce pas? UPS essaie vraiment de redéfinir le type de client et de volume qu'elle sert.
Exactement. C'est fascinant comme pivot stratégique. Au lieu de simplement chasser le volume à tout prix, UPS se concentre maintenant sur les segments premium, les petites et moyennes entreprises, les clients B2B, et surtout, le secteur de la santé. Les volumes SMB ont augmenté de 1,6% d'une année à l'autre et représentent désormais 34,5% du volume total américain, le plus haut de l'histoire de l'entreprise.
Et c'est particulièrement impressionnant quand on considère que le volume total aux États-Unis a baissé de 8% d'une année à l'autre. Cela signifie qu'ils perdent du volume dans les endroits qu'ils ne veulent pas servir tout en gagnant du volume dans les endroits qu'ils veulent vraiment servir.
Précisément. Et regardez ceci, leur revenu par unité pour le segment domestique américain a augmenté de 6,5% d'une année à l'autre. Brian Dick, le directeur financier, a ventilé cela, 340 points de base proviennent des taux de base et des caractéristiques des colis, 200 points de base proviennent de l'amélioration du mix client et produit, et 110 points de base proviennent des changements de prix du carburant.
Donc c'est une croissance organique réelle des revenus, pas seulement un artifice d'augmentation des prix.
Correct. Et pour la santé, c'est un élément vraiment important, UPS a franchi un cap majeur. Pour la première fois, leur portefeuille de soins de santé mondiaux a généré plus de 3 milliards de dollars en chiffre d'affaires dans un seul trimestre. Et cela croît dans tous les segments de l'entreprise.
C'est une grande victoire pour eux. Ils investissent dans ce domaine depuis des années, construisant ce qu'ils appellent un réseau logistique de bout en bout pour gérer les produits de santé les plus complexes et sensibles à la température. Et cela se concrétise maintenant.
Exactement. Ils gagnent également une part de marché chaque année depuis 2021 dans le secteur de la santé. C'est un moteur de croissance important. Et quand on y réfléchit, avec la façon dont les entreprises pharmaceutiques changent maintenant en pensée aux médicaments GLP-1 et comment ils vont directement aux consommateurs plutôt que par les distributeurs, UPS est bien positionné pour capturer cette opportunité.
Parlons du segment international, parce que celui-ci a vraiment surperformé. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,8% d'une année à l'autre, atteignant 4,5 milliards de dollars, avec une marge d'exploitation de 12,1%.
C'est intéressant parce que les perspectives pour le second trimestre sont exactement identiques à celles du premier trimestre, une croissance du chiffre d'affaires à faible chiffre simple et une marge d'exploitation entre 13% et 14%. Carole et Brian ont suggéré que certains des gains du premier trimestre pourraient être temporaires. Ils font face à l'impact des changements de politique commerciale, les tarifs, vous savez, eux qui ont affecté les flux commerciaux.
Mais il y a quelques signaux positifs, non?
Oui. UPS a rapporté que la Chine vers le reste du monde croît de 14% d'une année à l'autre. C'est un petit segment, mais c'est un signal encourageant. Et le commerce se déplace simplement au lieu de disparaître complètement, il se réoriente simplement vers d'autres régions et lignes commerciales.
Et ils construisent aussi pour l'avenir, n'est-ce pas? Ils ont agrandi leur hub aéroportuaire d'Incheon en Corée du Sud et ouvert leur plus grand centre logistique en Taïwan.
Exactement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils parlent constamment du programme d'accès numérique, le DAP. Cela leur donne accès à plus de 8 millions de petites et moyennes entreprises, et au premier trimestre, ils ont généré 1,2 milliard de dollars en chiffre d'affaires DAP. C'est le deuxième trimestre consécutif au-dessus des 1 milliard de dollars.
Maintenant, parlons du coût qu'ils éliminent, parce que ce programme Driver Choice est vraiment intéressant. C'est essentiellement un programme d'achat volontaire pour réduire d'environ 7500 postes de chauffeurs à temps plein.
Et c'est sursouscrit. Cela signifie qu'il y avait plus de chauffeurs qui postulaient que UPS n'en avait besoin d'accepter. Cela parle beaucoup de l'environnement économique actuel et peut-être aussi de la façon dont certains conducteurs font face à des conditions de travail difficiles. Mais c'est une indication positive pour UPS que le programme fonctionne mieux que prévu.
Et il cible 30 000 réductions de postes opérationnels pour l'année, et ce programme représente environ 7 000 cents de cela. Il vise également à atteindre 25 millions d'heures de réduction des heures opérationnelles variables.
Droit. Et tout cela s'ajoute à leur objectif global de 3 milliards de dollars d'économies de coûts pour l'année 2026. Ils ont fermé 23 bâtiments au premier trimestre et en prévoyaient 27 autres, la plupart fermant au deuxième trimestre.
Parlons des perspectives pour le reste de l'année. UPS réaffirme ses objectifs financiers consolidés pour 2026. Ils s'attendent à un chiffre d'affaires d'environ 89,7 milliards de dollars et une marge d'exploitation consolidée d'environ 9,6%.
C'est intéressant qu'ils réaffirment plutôt que de relever, compte tenu des surperformances au premier trimestre. Carole Thomé a expliqué que c'est trop tôt dans l'année pour relever. Il y a la situation au Moyen-Orient avec les prix élevés du carburant qui pourraient potentiellement affecter la demande. Il y a aussi cette confiance des consommateurs américains qui est à des niveaux historiquement bas.
Mais elle a dit que l'entreprise sous-jacente fonctionne mieux qu'il ne l'aurait cru. Elle a particulièrement noté qu'en regardant les résultats d'avril, ils allaient dépasser le plan.
Exact. Et voici ce qui est vraiment important, elle a dit que le deuxième semestre 2026 sera le point d'inflexion. C'est quand tous les avantages du programme d'élimination d'Amazon, de la réduction du personnel, de la consolidation du réseau commencent vraiment à devenir évidents.
Alors pourquoi n'ont-ils pas relevé? C'est de la prudence, je pense. Ils disent fondamentalement, regardez, nous surperformons, mais il y a trop d'incertitudes macroéconomiques. Voyons comment le deuxième trimestre se déroule.
C'est une approche sensée. Et franchement, cette approche conservatrice crée un potentiel de révision positive ultérieure dans l'année si les choses continuent à s'améliorer.
Maintenant, regardons au-delà de 2026. Carole a fait une remarque fascinante selon laquelle 2027 devrait être considérablement meilleur que 2026. Elle a attribué cela à la combinaison de la croissance du revenu par morceau, de la productivité des centres de distribution. Elle a mentionné que la productivité des centres est à son meilleur en 20 ans et du fait qu'ils ont automatisé 67,5% de leurs points de distribution, avec un objectif de 68%.
Et voici le chiffre clé qu'elle a donné, le coût par morceau dans un bâtiment automatisé est 28% inférieur au coût par morceau d'un bâtiment non automatisé. C'est un énorme levier de réduction des coûts à mesure qu'ils continuent à automatiser.
Donc, pour résumer pour nos auditeurs, UPS traverse une transformation majeure. Ils gagnent du volume dans les segments premium où ils peuvent générer des marges saines, ils perdent du volume dans les segments bas de gamme, ils rationalisent leur réseau et ils investissent massivement dans l'automatisation et la numérisation.
Et cela redéfinit vraiment ce que signifie être un leader de la logistique. Ce n'est plus simplement « nous expédierons tout pour tout le monde ». C'est « nous allons être excellents pour les clients B2B Premium, les petites et moyennes entreprises et le secteur de la santé ».
En parlant de ce qui se passe après, il y a une autre couche à tout cela et cela vient de l'actualité récente de cette semaine. UPS demande des remboursements de droits de douane. Carole a expliqué qu'ils ont remis plus de 5 milliards de dollars de droits au Trésor américain en 2025 et qu'ils sont essentiellement un simple mécanisme de passage, ils collectent et remettent. Maintenant, puisque ces droits ont été jugés remboursables, ils demandent des remboursements. Pour UPS, cela représente environ 500 millions de dollars en remboursement demandé.
Exactement. Et cela ne devrait pas avoir d'impact sur leurs états financiers, car une fois qu'ils reçoivent le remboursement du Trésor, ils le remettent à leurs clients. C'est simplement une question de flux de trésorerie et de chronologie.
Donc c'est un coup de pouce potentiel au flux de trésorerie libre plus tard dans l'année, ce qui pourrait soutenir leur paiement de dividendes de 5,4 milliards de dollars prévus.
Oui, absolument. Et leur flux de trésorerie libre attendu pour l'année est d'environ 5,5 milliards de dollars, y compris les paiements ponctuels pour le programme Driver Choice. Cela soutient vraiment leur engagement envers les actionnaires.
Donc, qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs? Je pense que la vraie histoire ici est que UPS a un plan et qu'il s'exécute. Ils sont en train de transformer leur mix de portefeuille, ils construisent une base de revenus plus saine avec des marges plus élevées, et ils investissent dans les technologies qui devraient les rendre plus efficaces à l'avenir.
Oui, et honnêtement, ce qui est impressionnant, c'est la discipline. Ils auraient pu relever les attentes après les surperformances du premier trimestre, mais au lieu de cela, ils disent « pas encore ». Laissez-nous obtenir à travers plus des incertitudes avant de le faire.
C'est un signe de maturité de la part de la gestion. Avant que nous terminions, nous devons inclure notre avertissement de clôture, Jordan.
Bien sûr. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable avant de prendre n'importe quelle décision d'investissement.
Et c'est tout pour Beta Finch aujourd'hui. C'était un trimestre intéressant pour UPS, et nous pensons que l'histoire devient vraiment intéressante au fur et à mesure que nous avançons vers le deuxième trimestre et le second semestre 2026. Merci de nous avoir écoutés.
Oui, merci à tous. Continuez à explorer, continuez à apprendre, et comme toujours, investissez sagement.
À bientôt sur Beta Finch. **, fin du podcast, 1,180 millions. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.